Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Nous évoquons l'enseignement privé en France ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car un mot jette une lumière crue sur ces établissements, c'est Betarame. Du nom de cette école, collège, lycée, au cœur d'un scandale, 200 plaintes déposées par des anciens élèves pour violences physiques, agressions sexuelles et viols commis pendant des décennies. Une affaire qui remonte jusqu'au sommet de l'État, puisque aujourd'hui, François Bayrou était auditionné par une commission d'enquête parlementaire, le Premier ministre actuel, accusé d'avoir été au courant de certains agissements et d'avoir fermé les yeux alors qu'à l'époque, il était élu dans la région. Notre question ce soir, quel contrôle sur l'enseignement privé en France? Quel compte ces établissements doivent-ils rendre? Et comment renforcer la transparence pour éviter à l'avenir d'autres affaires Betarame? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Hélène Lobigna, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes présidente de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement catholique sous contrat d'État. Face à vous, Ixelle Delaporte, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, autrice du livre et du documentaire Les enfants martyrs de Riaumont, dont on va parler. Pierre Merle, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, vous êtes sociologue, vous êtes professeur émérite de sociologie à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Votre ouvrage, L'élève humilié, l'école, un espace de non-droit, point d'interrogation. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Hélène Lobigna, d'abord, ça représente quoi, alors pour que nos auditeurs comprennent l'enjeu, l'enseignement privé en France aujourd'hui?
Alors, l'enseignement privé en France, ce sont à peu près 20% des élèves scolarisés au sein de l'éducation nationale. Donc voilà, on est à peu près sur 80-20, plus ou moins. Voilà. Et puis donc l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre regroupe un peu plus de 900 000 familles.
20% d'élèves dans le privé en France, donc compte 80% dans le public, ça fait 2 millions en gros d'écoliers.
C'est ça.
Tous les établissements privés sont sous contrat, comme on dit ?
Pas du tout. Okay. Pas du tout. Les établissements privés ne sont pas tous sous contrat d'État.
La grande majorité
sont sous contrat d'État, mais il y en a qui ne le sont pas.
Et ça veut dire quoi être sous contrat d'État ?
Ah ben, nous avons des obligations, en fait, à avoir les mêmes programmes, des professeurs qui sont formés par l'éducation nationale. Et donc, on doit faire une proposition, d'un plus par rapport à l'enseignement public et notamment ce qui régit notre caractère propre, donc une proposition liée à l'évangile dans nos établissements.
Mmh. Qui est-ce qui finance les établissements privés sous contrat? On a compris que c'est donc un élève sur cinq en gros en France qui sont dans des établissements privés sous contrat. Qui finance ces établissements privés?
Alors, en partie l'État, puisque les professeurs sont payés par l'éducation nationale. Et ensuite, il y a la contribution des familles qui vient également là pour pouvoir, en fait, si vous voulez, répondre à tout ce qui est entretien de l'immobilier et des différentes petites choses qui sont proposées donc à côté.
Soit 70% effectivement l'État qui finance les établissements privés. Est-ce que, je ne sais pas si on peut faire des parallèles avec l'étranger, la situation elle est la même ailleurs pour les établissements privés en Europe, par exemple?
Alors,
est-ce que le financement de l'État est aussi haut?
Alors, je ne sais pas vous répondre parce que je n'ai pas les chiffres sur l'étranger, justement, et qu'est-ce qui est fait ailleurs. Je n'ai pas l'information.
Pierre Merle, sociologue. Est-ce que vous avez cette information sur comment ça se passe à l'étranger? Parce qu'évidemment, on pose de débats. Là, on va parler ce soir du contrôle des enseignements privés. Et s'ils sont majoritairement financés par le public, on se doute que le public doit les contrôler. Comment ça se passe à l'étranger?
Alors pour la France, comme ça a été dit, c'est 75% de financement par les collectivités publiques, c'est-à-dire l'État, les départements, les régions et les communes. Et puis, au niveau de l'étranger, on a des situations très diverses. En Belgique, par exemple, l'enseignement privé est financé à 100%, mais en Suisse, par exemple, il n'est pas du tout financé. Donc, on a un panachage entre un financement complet et puis absence de financement. La France se situe parmi les pays dans lesquels le financement est élevé et avec des contrôles, nous allons en parler, qui sont réduits.
Alors, justement, les contrôles, quels sont-ils, Pierre Merle? Les contrôles donc de l'État envers ces établissements privés qui sont majoritairement financés par l'État?
Il y a trois types de contrôles, en fait. Il y a un contrôle financier, puisqu'il y a des règles financières à respecter, une certaine transparence à avoir. Il y a des contrôles administratifs qui portent, par exemple, sur l'organisation de la vie scolaire, bien que ce soit un objet de débat avec l'enseignement catholique. Et puis, il y a les contrôles pédagogiques où les inspecteurs vont dans les classes. Et puis, voient si, comme dans le public, si les professeurs suivent le programme et puis ont une pédagogie adaptée.
Et alors, est-ce que les contrôles, je dirais, sont à la hauteur des enjeux? Est-ce qu'ils sont respectés déjà, ces contrôles? Est-ce que les obligations de contrôle sont respectées?
Alors, il n'y a pas vraiment d'obligation de contrôle. La loi Debré prévoit que l'État contrôle les établissements privés, mais dans les faits, ce contrôle a toujours été très léger. Dans l'enquête de Vanier et Weisberg, il est indiqué en 2023 5 contrôles sur 7500 établissements, ce qui fait que pour contrôler tous les établissements, il faudrait 1500 ans. Donc on voit bien que les contrôles sont très faibles, en fait très peu nombreux. Sur l'Académie de Nantes, par exemple, où il y a 40% de collèges privés, de 2017 à 2023, il y a eu une seule inspection. Donc on voit qu'il y a une insuffisance chronique des contrôles.
Hélène Lobigna.
Tout à fait.
Encore une fois, je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement catholique sous contrat d'État.
Oui, tout à fait d'accord avec monsieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, comme tous les établissements publics, le devoir de répondre à un certain nombre de règles et les contrôles en font partie. Nous devons être contrôlés et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs pour pouvoir contrôler nos établissements. C'est un petit peu dommage et nous sommes tout à fait pour des contrôles renforcés pour être dans la transparence et pouvoir montrer ce qui est fait au sein de l'enseignement catholique, nous n'avons rien à cacher, donc venez nous contrôler.
Mais alors pourquoi il n'y a pas davantage de contrôle selon vous?
Parce que je pense que l'État n'a pas aujourd'hui les moyens peut-être suffisants de faire ces contrôles. Est-ce qu'il y a assez d'inspecteurs pour autant pour contrôler? Je suis pas certaine.
Et XL Delaporte, on vous a pas encore entendu, vous êtes journaliste, autrice du livre et du documentaire Les enfants martyrs de Riaumont. On va évidemment évoquer ce sur quoi vous avez enquêté, mais... Pour répondre, vous avez des éléments pour répondre à cette question. Pourquoi est-ce que l'État ne fait pas davantage de contrôle? Encore une fois, l'État finance à 70% l'enseignement privé sous contrat en France.
Je pense qu'il y a un problème historique de relation entre l'État et l'Église. Je pense que l'État a un peu renoncé finalement à rentrer davantage dans les écoles privées, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat. Et que je pense que ça arrange vraiment bien aussi les établissements privés, en fait, catholiques, parce que du coup, il y a une sorte de liberté, entre guillemets, comme l'a très bien expliqué Éric de Moulin-Beaufort, qui était auditionné par les deux députés. Cette liberté, elle est très problématique quand on voit tout ce qui sort là depuis Bétarame et qu'on voit qu'il y a eu des années sans avoir un seul inspecteur, sans avoir... Et quand bien même il y en ait eu des inspections, les inspections sont extrêmement favorables en général aux établissements privés.
Est-ce que, et c'est la deuxième partie de votre réponse, je ferai réagir évidemment Hélène Lobigna, mais est-ce que le public est empêtré dans une définition laïque de la France et qui justement la bloque, qui le bloque, l'État, dans son intervention auprès des établissements privés aujourd'hui?
Et je pense qu'il faudrait un petit peu clarifier effectivement les choses sur les responsabilités de chacun en fait dans cette histoire. Évidemment, l'État, quand il finance à 75%, ne peut pas décemment assumer le fait de ne pas contrôler les établissements. Je veux dire, quand on donne un maximum d'argent, il est évident, en plus s'agissant d'enfants, parce qu'on est quand même en train de... On ne parle pas d'une entreprise, on est en train de parler d'enfants et du bien-être des enfants. Donc c'est quand même assez problématique et je pense que, justement, les deux députés qui s'occupent de cette commission sur les violences à l'école sont en train de décortiquer tous les manquements qu'il y a pu avoir sur le cheminement de ces contrôles, à quel endroit ça coince, à quel moment finalement il n'y a pas de lien de signalement, de déposer plainte, de proposer aux gens d'aller déposer plainte. Enfin, et on a l'impression en fait que c'est un État dans l'État et qui se gère et qui sont tout seuls et qui sont en roue libre. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs pour le cas de Riaumont, en fait, où ils étaient complètement en roue libre.
Et on va en parler, un État dans l'État, Hélène Lobigna, quand XL Delaporte dit que finalement ça arrange certains établissements privés. Parce qu'évidemment, ça leur laisse les mains libres pour faire un petit peu ce qu'ils veulent.
Alors peut-être, mais il ne faut pas oublier quand même que les établissements privés, donc, et notamment, alors moi, ceux que je connais bien, donc sous contrat d'État, ont des obligations. Ils doivent répondre à ces contrôles, ils doivent respecter les programmes, ils doivent respecter effectivement certaines pédagogies.
Ils doivent, mais s'il n'y a pas de contrôle, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Ça fait partie des
Vous avez entendu les chiffres que Pierre Merle a donnés. Effectivement, il y a 7500 établissements recensés, il y a 5 audits budgétaires menés chaque année, et au cours des 4 dernières années, 4 inspections menées par l'inspection générale de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche. 4 sur 7500 établissements. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de contrôle.
Oui, mais il faut venir, il faut y aller, il faut contrôler. D'ailleurs, il y a bien eu, avec justement les différentes choses qui sont faites et cette commission d'enquête au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que il y a eu une prise de conscience et il y a maintenant au niveau des rectorats, au niveau des différentes instances, enfin des contrôles qui sont réalisés. Et on appelle ces contrôles à pouvoir se poursuivre. Moi, en tant que présidente de l'Association des parents d'élèves, je dis venez contrôler les établissements. Il faut absolument venir contrôler les établissements parce qu'il est normal que nous rendions des comptes à l'État. C'est logique, ça fait partie des choses que l'on doit faire. Mais les parents ont tous une responsabilité, et on l'a dit, on s'adresse d'abord à des enfants. Et nos enfants, nous avons choisi, nous, de les mettre dans des établissements qui ne sont pas publics, où nous avons choisi, justement, librement de les mettre à cause d'un projet pédagogique ou grâce à un projet pédagogique qui nous convient. Il faut pour cela qu'ils puissent être en toute sécurité et que chaque parent comprenne qu'il a un devoir de signalement.
Que vous inspire l'affaire Betarame ? Pour laquelle François Bayrou était auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire. 200 plaintes d'anciens élèves déposées pour violences physiques, agressions sexuelles et viols commis pendant plusieurs décennies. Est-ce que c'est un cas parmi tant d'autres, selon vous ? Puisqu'il n'y a pas de contrôle, on ne peut pas le savoir.
Eh bien non, je crois que... Alors j'espère que l'affaire de Betarame va faire sortir justement toutes les autres affaires. Et on a vu que ça a créé une chaîne de dénonciation. Je souhaite que cette dénonciation continue de se poursuivre. Je pense que nous n'en avons pas fini. Et qu'il y aura encore des personnes qui vont parler. Parce qu'il est difficile pour une victime de pouvoir parler. Et c'est ce que dit le collectif. C'est très difficile de faire ce chemin vers la vérité, vers justement mettre au grand jour ce qui s'est passé, mais c'est nécessaire. Et il faut effectivement sanctionner ces établissements où il s'est passé l'innommable. Ça n'est pas possible, on ne peut pas garder quelque chose comme ça.
Pierre Merle, comment est-ce que l'affaire Betarame est-elle vécue par les établissements privés ?
Forcément, elle est vécue d'une façon douloureuse, sans aucun doute. Je reviens sur ce qui a été dit par Hélène Loubignat. Effectivement, il y a un manque d'inspecteurs qui explique en partie l'absence de contrôle. Il faut aussi dire qu'il y a une résistance de l'enseignement catholique à ces contrôles, même si elle n'est pas exprimée. La commission d'enquête parlementaire a été tout à fait éclairante sur ce point de vue, puisqu'il y a un guide de contrôle des établissements privés sous contrat qui a été élaboré en cours d'élaboration en 2024. Il a été soumis au secrétaire général de l'époque, qui a envoyé une lettre qui a été saisie par la commission d'enquête, qui est assez surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les contrôles qu'il y avait et les préconisations, il y avait la nécessité dans tous les établissements privés sous contrat que soit affiché le numéro 119, enfance en danger.
Ouais.
Le secrétaire général a souhaité que cette demande n'aboutisse pas. Il y a aussi, comme demande dans le guide de contrôle, qu'il y ait forcément dans tous les règlements intérieurs une échelle de sanctions pour les élèves. Et le secrétaire général de l'époque a souhaité que ceci ne figure pas. Donc, il y a un peu un double discours de la part de l'enseignement catholique qui dit vouloir beaucoup de contrôle, enfin, ne pas les refuser, mais en même temps, sur le guide de contrôle, a émis beaucoup de réserves, je vous en ai donné quelques-unes, notamment que figure aussi la devise de la République. Bon, ce sont des établissements sous contrat, avec un caractère propre qui est la confession catholique, c'est tout à fait admis dans la loi, mais c'est aussi un lieu qui est un lieu de la République. Donc il y a une certaine réticence quand même au contrôle, même si elle ne s'affiche pas. Dans les faits, il y a le fait, au nom du caractère propre, qui est une notion mal définie, le fait de pouvoir être indépendant. Or, il y a une indépendance, mais il y a des limites qui sont les lois de la République.
Hélène Loubignat, on a entendu votre bonne volonté pour qu'il y ait davantage de contrôle. Mais on a entendu aussi Pierre Merle qui nous dit que finalement, cette bonne volonté, on y est entre les lignes, elle n'est pas révélatrice du sentiment des personnes qui sont à la tête des établissements privés en France.
Alors, je vais rectifier les choses. Moi, je suis présidente de l'association des parents d'élèves de l'enseignement catholique. Je ne suis pas l'enseignement catholique, je ne représente pas
son secrétaire général. Non, mais vous connaissez les directeurs d'établissement.
Mais je connais effectivement les directeurs d'établissement.
Et le mot réticence est celui qui revient le plus souvent, comme le dit Philippe Pierre Merle.
C'est ce qui a été pointé, en tout cas, et qu'on ne peut pas nier. Il faut que les choses changent. Moi, je pense que tous les parents qui sont aujourd'hui, ou la majorité qui sont dans l'enseignement catholique, j'ose l'espérer, appellent justement les contrôles de leurs vœux. Il faut que l'on puisse être dans des établissements qui soient transparents. Enfin, ça me semble évident. On fait partie, justement, de l'éducation nationale. On est lié à cette école de la République par le contrat d'État. Donc, il faut pouvoir répondre à toutes les demandes qui sont là.
Mais alors, est-ce que contrôle veut dire, pour ces directeurs d'établissement, remise en cause de l'indépendance, comme l'évoquait Pierre Merle, de l'indépendance de ces établissements ?
Non, je crois pas. Je pense que un contrôle doit être dirigé avec, effectivement, comme l'a dit monsieur, il y a différents contrôles financiers, pédagogiques, enfin voilà. Les contrôles doivent être réalisés de la même manière qu'ils sont réalisés dans le public. Je vois pas pourquoi ça serait différent chez nous.
Alors, XL Delaporte, vous avez enquêté sur un foyer. Alors, c'est en écho à ce que nous disait Hélène Lobigna quand je posais la question « Est-ce que Bétarame est un cas parmi d'autres ?» Vous m'avez dit non. Pourtant, XL Delaporte, vous avez enquêté sur un foyer du Pas-de-Calais, dans le nord de la France, le pensionnat de Riaumont, où de jeunes garçons ont été accueillis pendant plus de 50 ans jusqu'en 2019. Qu'avez-vous découvert au cours du livre et du documentaire que vous avez réalisé ?
Beaucoup de maltraitance, beaucoup de violence physique dans un premier temps. Et malheureusement, il y a ce continuum que l'on découvre et que l'on découvre à Bétarame, qui est le continuum des violences sexuelles et qui apparaissent après, parce que ce ne sont pas forcément les choses les plus faciles à exprimer pour les anciens élèves. Mais beaucoup de violences physiques, beaucoup d'humiliations aussi. C'est vrai que Riaumont, il faut le dire, est un cas extrême parce que c'est un établissement privé hors contrat avec une idéologie scout, une idéologie aussi d'extrême droite, tout à fait assumer des méthodes paramilitaires. Ce n'est pas le scoutisme tel que la plupart des gens l'entendent. Hein. C'est une manière en fait d'endurcir les enfants et des enfants qui leur étaient confiés par des familles catholiques traditionnalistes, qui étaient plutôt des enfants plutôt rebelles et remuants. Et donc l'idée étant Riaumont étant une sorte de d'école de la dernière chance pour pouvoir vraiment les mater définitivement.
Ouais. Or contrat ne veut pas dire pas accepté par la France. Donc
non,
la France a
tout
accepté Riaumont. Comment la France a pu accepter la mise en place d'un tel pensionnat ?
Mais Riaumont, quand le lieu est créé en 1989, il est répertorié au rectorat de Lille. Donc le rectorat de Lille a un droit de regard et même un devoir de regard sur ce qui se passe au sein du collège de l'école privée hors contrat de Jean Bosco. Et vous voyez, par exemple, typiquement, quand j'ai fait l'enquête, j'ai demandé à avoir les différents rapports qui avaient été faits au rectorat de Lille et le rectorat de Lille n'a pas voulu me les donner. Ouais. Donc, je ne sais pas, en fait, en quelle qualité et qu'est-ce qu'ils ont fait comme type de contrôle. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas contrôlé toute la partie de la vie scolaire, qui est en fait le thème central, en fait, aussi, que révèle Bétarame. C'est-à-dire, OK, un contrôle des installations, un contrôle du projet pédagogique, mais quid de la situation des élèves au quotidien, leur vie scolaire, sachant qu'en plus, les écoles privées hors contrat, elles ont beaucoup d'internats. Et que c'est dans les internats qu'il y a énormément de problématiques liées aux violences sexuelles et aux humiliations. On fait bien la différence aujourd'hui à Bétarame entre ceux qui étaient externes et ceux qui étaient internes. Riaumont, typique aussi d'un lieu en vase clos où les enfants vivaient H24 dans un lieu fermé, vraiment totalement coupé du monde, d'une certaine manière, en huis clos. Je pense qu'il faut quand même aussi regarder les choses en face. C'est-à-dire, on peut toujours dire aujourd'hui, il faut que l'État contrôle davantage. Mais pourquoi l'enseignement catholique n'a pas réagi quand il y a eu le rapport de la CIAS, Jean-Marc Sauvé ? Ils ont détecté 330 000 victimes. Et sur les 330 000 victimes, combien y en avait-il issus de l'enseignement privé catholique ? Il y en avait 30%. C'est un chiffre qui est énorme.
Hélène Lobigna, votre réponse, présidente de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement catholique sous contrat d'État.
Bah écoutez, je crois que XL l'a bien dit, hein, c'est-à-dire que il y a effectivement aujourd'hui un manquement au sein donc des rectorats, au sein effectivement.
Pourquoi il n'y a pas eu les réactions?
Il n'y a pas eu de réaction. Alors, je ne peux pas répondre à la place de l'enseignement catholique, mais effectivement, c'est même pour nous, au niveau de l'appel, pour que vous sachiez quand même, nous n'avons eu aucune remontée de ce qui s'est passé à Bétaram. Je trouve ça complètement fou. Alors, moi, je suis nouvelle présidente, mais il n'y a jamais eu, aucun des anciens présidents n'a jamais été sollicité alors qu'il y a eu des faits sur Bétaram où l'appel a été mis en cause. Donc, c'est quelque chose que je trouve... Donc, il faut vraiment faire quelque chose maintenant, quoi. Enfin, chaque parent doit prendre la responsabilité des choses.
Mais je trouve un peu regrettable de se dire qu'il a fallu qu'il y ait une affaire d'État qui soit liée au Premier ministre, à François Bayrou, parce que l'affaire Bétaram, elle préexistait à l'affaire Bayrou-Bétaram. Elle a commencé en 2023. Alain Esquer, il a commencé à faire tout son rassemblement de témoignages à partir de 2023. Il y a eu des journalistes qui se sont intéressés au sujet de Bétaram. Et jusque-là, l'affaire n'avait pas éclaté à ce niveau-là. Si aujourd'hui, il y a plusieurs collectifs et qu'il y a peut-être maintenant, je dirais, 15 ou 20 établissements partout en France qui ont créé des collectifs d'anciens et de victimes, c'est pas anodin. Ça veut dire que, en fait, ça a été une onde de choc. Mais que faut-il, en fait? C'est ça la question. C'est que faut-il? Où faut-il en arriver? Faut-il avoir un Premier ministre qui est en lien avec Bétaram pour que ces histoires, elles éclatent et qu'on mette les gens face à leurs responsabilités? C'est triste, quand même, d'en arriver là.
Quel contrôle sur l'enseignement privé en France? La question qu'on pose ce soir, alors que François Bayrou, le Premier ministre, était aujourd'hui auditionné devant une commission d'enquête parlementaire au sujet de l'affaire Bétaram. Mes trois invités sont Ixchel Delaporte, que l'on entendait, qui est journaliste, autrice du livre et du documentaire Les enfants martyrs de Riaumont, Hélène Lobigna, présidente de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement catholique sous contrat d'État, et Pierre Merle, sociologue, professeur émérite de sociologie à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Pierre Merle, on a entendu ce que nous a dit Ixchel Delaporte, ce qu'a dit Hélène Lobigna également. Il y a un mot qui domine, c'est le mot omerta. Pourquoi et à qui profite le crime? J'ai envie de demander pourquoi est-ce que toutes les personnes qui sont liées au contrôle de ces établissements privés ne parlent pas, qu'elles soient dans le public ou dans le privé, n'y contribuent pas?
Je pense que c'est une question qui est forcément très sensible dans l'opinion. Et qu'il y a de la part d'une partie, et d'une partie seulement, des responsables de l'enseignement catholique, l'idée qu'il faut mieux ne pas en parler et de laisser les choses se faire. Je pense que ce n'est pas forcément une attitude qui est très courageuse après le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, où effectivement les internats constituaient un lieu privilégié. Il n'y a pas eu de politique très clairement affirmée par l'enseignement catholique. Je voudrais revenir, parce que tout ceci fait partie du débat, sur les établissements privés hors contrat. Il y a un vademécum qui précise comment les inspecteurs doivent procéder. Ils doivent interroger les personnels de direction, les personnels enseignants, non-enseignants, les parents d'élèves et les élèves. Il y a des établissements privés hors contrat qui veulent bien que des élèves soient inspectés, mais en la présence d'un personnel de direction. Évidemment, le vademécum n'est pas assez clair, et puis le vademécum n'est pas assez clair, et les inspecteurs devraient avoir le droit d'écouter les élèves sans la présence d'un personnel de direction. Il y a aussi, parce qu'il y a la question des violences, mais il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, quand des établissements privés hors contrat prévoient 2 heures de PS dans l'emploi du temps, mais que c'est 2 heures de PS pour les garçons et que pour les filles, c'est 1 heure de PS et 1 heure de couture ou 1 heure d'instruction religieuse, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur un principe fondamental de notre République, c'est l'égalité filles-garçons. C'est pareil d'ailleurs pour l'éducation morale et civique. Il n'y en a pas dans certains établissements privés hors contrat, plutôt les établissements traditionnalistes. Donc il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont d'ailleurs notés dans les rapports, que le rectorat, effectivement, ne donne pas spontanément. J'ai pu en travailler sur 150 de ces rapports d'inspection. C'est accablant parce que, en fait, le rectorat a connaissance de dérives qui sont importantes et finalement, alors que ces établissements doivent respecter ce qu'on appelle le socle commun de compétences, c'est-à-dire ce qui revient en gros au programme, mais sans être aussi strict, eh bien, on voit qu'il y a des lacunes considérables dans les apprentissages. Dans les écoles Steiner, par exemple, il y a des inspecteurs qui disent « mais les enfants n'apprennent rien ». Jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, les déficits sont connus et puis il n'y a pas de sanctions derrière et c'est problématique dans l'organisation du ministère.
Alors, est-ce que les choses changent XL de la Porte.
Non.
Ouais, XL, non, je voudrais faire réagir XL de la Porte parce que il y a la commission d'enquête parlementaire qui est intervenue au village d'enfants de Riaumont, c'était le mois dernier. Qu'est-ce qui est ressorti de cette visite?
Alors, il se trouve que le village d'enfants de Riaumont, le rectorat en 2019, demande, suite à toute une vague d'auditions et suite à une vague d'auditions provoquée par un dépôt de plainte en 2013, donc finalement, le rectorat demande à Riaumont de faire partir les derniers enfants. Donc l'école Jean Bosco, elle ne fonctionne plus. Néanmoins, ils ont du scoutisme. Ouais. Ils ont donc des jeunes, des louvettes et des scouts qui fréquentent le lieu. Il a fallu attendre qu'il y ait des gens qui aillent manifester devant Riaumont pour que le préfet prenne un arrêté préfectoral pour interdire les courts séjours à Riaumont. Donc c'est pas, ça ne veut pas dire on empêche Riaumont de recevoir des enfants, mais on restreint en tout cas leur champ d'action. Ça, c'est en janvier 2025. Et l'arrêté, il est prévu pour l'année 2024-2025. Donc, c'est assez cocasse que cet arrêté soit mis en place en janvier. Donc, progressivement, on avance parce qu'effectivement, la commission s'est penchée sur le cas de Riaumont grâce à Violette Spielboot parce qu'elle est députée du Nord. Mais le fait est qu'il y a toujours des enfants à Riaumont. Et simplement, ils ont juste changé de lieu. Ils font des camps dans d'autres terrains privés autour, ils continuent à faire leurs activités de scoutisme. Donc, c'est extrêmement compliqué. Là, la dernière information que je peux vous donner, qui est intéressante, parce que c'est encore une fois, on arrive toujours trop tard, quoi. En fait, il faut mettre les gens face à leurs responsabilités pour que ça bouge. Et donc, le diocèse d'Arras et l'abbaye de Fontgombault ont écrit un communiqué en disant que Riaumont allait avoir une visite canonique extraordinaire sous peu, en fait, pour contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça arrive très tard, encore une fois.
Et Hélène Lobignat, ce sera le mot de la fin, il nous reste une grosse minute. Les autorités ont annoncé qu'au cours des deux prochaines années, 40% des établissements privés. On a compris qu'il y en a eu quasiment 1%, quasiment rien en ces dernières années. 40% dans les deux prochaines années des établissements privés seront contrôlés. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé pour cela le recrutement de 60 inspecteurs supplémentaires. C'est suffisant?
Non, c'est jamais suffisant. Je pense qu'il faut que...
Est-ce que vous y croyez surtout?
Alors, oui, j'y crois, parce qu'il faut y croire. Il faut voir qu'on a peut-être commencé quelque chose. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer que la parole se libère, qu'on brise ce silence et qu'on arrête de, en fait, se fermer sur, justement, fermer les yeux sur tout ce qui s'est passé et ce qui peut peut-être se passer encore aujourd'hui.
Vous avez entendu le témoignage d'Ixelle Delaporte, ça continue?
Oui, mais c'est justement pour ça que je dis
malgré
chaque parent a une responsabilité.
Parce que vous disiez, il faut la question d'un Premier ministre pour qu'on parle de cela.
Mais je pense qu'il ne faut pas attendre les contrôles. Il faut que chacun puisse parler. On le disait, les enfants doivent pouvoir être écoutés. Aujourd'hui, il faut mettre des choses en place. Le 119 est un numéro fondamental. Il faut afficher les choses partout. Au niveau de l'appel, nous, on a des affiches qui partent là cette semaine. Donc, allons-y. Brisons ce silence et écoutons et croyons tous les enfants qui ont quelque chose à dire.
On entend votre bonne volonté, même si elle ne semble pas être à la hauteur, évidemment, des enjeux. Quel contrôle sur l'enseignement privé en France? Des contrôles beaucoup trop faibles, on l'a bien compris dans ce débat du jour. Merci beaucoup à vous trois, Hélène Lobignat, Ixelle Delaporte et Pierre Merle. Et merci à Florence Ponce à la préparation. Hélène Abril à la réalisation.
RFI.
Et dans une minute, ce sera le grand journal du soir. Et 30 minutes plus tard, ce sera Afrique Soir, la première édition de ce mercredi. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Quel programme ce soir?
Alors à la une, la Mauritanie, puisque l'ex-président Aziz a été condamné en appel à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Tous ses biens sont confisqués, il est déchu de ses droits civiques. Bref, cette peine en appel est beaucoup plus sévère que celle qui avait été prononcée en première instance. La crise diplomatique entre la France et l'Algérie, c'est du coup pour coup entre les deux pays, puisque Paris à son tour renvoie des diplomates algériens. En Guinée, le début de l'indemnisation financière des victimes du massacre du 28 septembre 2009 dans dans le stade de Conakry, 16 ans après la tragédie. C'est un soulagement, vous l'entendrez, pour l'association des victimes. Et puis le 78e festival de Cannes, on change complètement de décor, la coup de projecteur sur Dieudo Hamadi. Il est originaire de Kisangani, il est réalisateur congolais et membre du jury officiel.
Eh bien, merci, à tout à l'heure Sylvie.